Carrefour.
Quand vous me dites, les JO de Paris 2024, ça va être énorme! Et pour une fois, toute la France sera derrière Paris! Eh bien, je vous réponds que pour célébrer les Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a une collection exclusive chez Carrefour. Comme par exemple, le ballon de foot Paris 2024 à 9,99€ seulement. Alors? Ah ben ça, c'est énorme! Et c'est dans vos hypermarchés Carrefour.
Carrefour, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Jusqu'à épuisement des stocks, produits officiels sous licence, détails sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi sur RMC à la radio, RMC Story, canal 23 de la TNT. On est ensemble jusqu'à 15h aujourd'hui avec vous, bien sûr, au 32-16 et sur l'application RMC, rubrique Direct Studio. Et aussi avec Rémi Barré, tout d'abord. Salut Rémi.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
C'est Rémi Barré qui lira tous vos messages. On est avec notre économiste préféré, c'est Pierre Rondeau. Ça va Pierre?
Ça va très bien Estelle.
Notre féministe préféré également, Fatima Benomar. Salut Fatima.
Salut, bonjour.
C'est les 50 MeToo aujourd'hui.
Eh ben, joyeux anniversaire.
Eh ben voilà, on va en parler dans cette émission. Et puis, journaliste RMC.
Je suis pas préféré de quelque chose.
Mais si, t'es le journaliste préféré, évidemment, Frédéric Belbir. Tellement sur RMC que je peux pas trop, tu vois.
Bah,
alors
oui,
il y a moins d'économistes et de féministes, donc c'est plus simple.
Bonjour Estelle, bonjour les amis.
Allez, au sommaire aujourd'hui dans Estelle Midi, la SNCF qui envisage d'augmenter ses tarifs à cause de la hausse des prix de l'énergie. Est-ce que c'est honteux? On vous attend au 32-16, à midi et demi. Les 5 ans de MeToo, donc aujourd'hui. A-t-on vraiment évolué depuis le début du mouvement et les hommes ont-ils changé de comportement? À 13h, François Ruffin, le député LFI de la Somme, qui milite pour un référendum sur les retraites. D'accord ou pas d'accord avec lui? 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h50, la minute conso avec Stéphane Pedrazzi. On parlera des avis clients. Est-ce qu'il faut vraiment s'y fier? Et puis à 14h, l'augmentation des tenues islamiques à l'école. Faut-il rendre le port de l'uniforme obligatoire pour éviter ce phénomène? Là encore, on attend vos avis au 32-16.
RMC, Estelle Midi.
Il est midi 5, vous êtes sur RMC et on va démarrer Estelle Midi tout de suite avec l'actualité du jour. Et c'est la SNCF qui envisage d'augmenter le tarif de ses billets de train en raison de la flambée des cours des prix de l'énergie. Rémi, quels sont les billets qui devraient augmenter?
Alors, selon le journal Le Parisien, et même si la SNCF dément, deux scénarios seraient envisagés, soit une augmentation uniforme de tous les billets intercités et TGV, soit une augmentation plus ciblée en fonction du profil du client ou de la ligne. Cela viserait par exemple la clientèle affaires avec une hausse des prix des billets en semaine, ou encore, autre possibilité, une augmentation des prix des billets sur les lignes les plus fréquentées. Pas le choix, de toute façon, selon la SNCF, l'entreprise est la plus grande consommatrice industrielle d'électricité en France et avec la hausse des coûts de l'énergie, sa facture pourrait s'alourdir d'€1,7 milliard en 2023. Problème, nombre de voyageurs estiment que les prix actuels des billets sont déjà bien trop élevés et qu'ils ne cessent d'augmenter. C'est ce que confirme une récente enquête de l'INSEE. Selon l'Institut, entre février et avril 2022, les prix des billets de train ont explosé en France, plus 15,3% comparé à la même période de 2021. La SNCF, encore une fois, réfute et en se basant sur des méthodes de calcul différentes, parle, elle, d'une baisse globale de 7%.
Alors, est-ce que c'est honteux que la SNCF augmente le tarif de ses billets? Je vais commencer avec vous, Pierre Rondeau. Mais
honteux, c'est pas le terme que j'emploierais, parce que c'est une simple réponse au signal prix. Le prix de l'énergie augmente, la SNCF roule, en tout cas les trains roulent à travers l'électricité. Donc, bien évidemment, si le prix augmente, de fait, il y a une réponse à ce signal de marché, les prix de vente devraient augmenter. Donc, honteux, c'est une réponse pragmatique. Maintenant, on peut en discuter, on peut effectivement réfléchir à ce que le bouclier tarifaire qui est installé en France pour les ménages français puisse aussi être appliqué pour certaines entreprises d'importance majeure. Et on pourrait débattre sur est-ce que la SNCF serait une entreprise d'importance majeure pour permettre le déplacement des usagers. Il y a ce débat qui peut avoir effectivement sur la sobriété, mais aussi sur la question de la transition énergétique et environnementale, et à réduire l'usage de l'avion. Ça sera en soutenant l'usage du train, ou en tout cas réduire l'usage de la voiture, en soutenant l'usage du train, mais le train et le prix du train augmentent, donc il n'y a pas de soutien qui est fait. Donc on pourrait aussi réfléchir à ce que ce bouclier tarifaire soit appliqué dans ce type d'usage et dans ce type de transition. Mais à la question, est-ce que c'est honteux? Malheureusement, et je mets bien le trait sur le malheureusement, non, puisque c'est une réponse à la conjoncture internationale.
Aujourd'hui, vous avez l'application SNCF Connect qui marche une fois sur trois, mais enfin, qui a coûté quand même 25 millions d'euros.
Mais encore une fois, tout ça.
Vous avez la SNCF prend Thierry Marx, par exemple, qu'on adore. On adore Thierry Marx, mais pour faire ses menus végétariens. Mais il y a peut-être aussi des économies à faire dans d'autres domaines avant d'augmenter le prix des billets.
Je suis entièrement d'accord. Il y a des choses qui doivent être réfléchies. Il y a même la question aussi, parce que si j'ai une réponse, là, à partir de mon analyse, j'ai une réponse, on va dire, économique. C'est un signal prix, c'est une réponse de marché, le prix augmente, je répercute sur la vente des billets. Mais si j'ai une réponse de marché, on pourrait aussi réfléchir à l'ouverture de la concurrence, à la privatisation, et à pleinement rentrer dans la logique de marché. Si on est sur un service public qui rend service à ses usagers, il n'a pas à réfléchir sur la question de la rentabilité.
Il y a des destinations où vous pouvez...
Oui, mais il y a plusieurs choses à mettre en avant. Il y a à la fois la question conjoncturelle, le prix de l'électricité augmente. Qu'est-ce qu'on fait face à ça? Il y a aussi la question de la transition énergétique. Il faut aller vers plus de sobriété. Donc moins de voitures, moins d'avions, donc soutenir le train. Sauf que là, pendant les vacances, eh ben, pour faire un Paris-Toulon, un Paris-Marseille ou un Paris-Toulouse, si on veut prendre l'avion, ça coûte 3 ou 4 fois moins cher qu'un billet de train. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est toute la question, c'est toute la problématique.
Alors après, on est d'accord qu'effectivement, quand vous êtes dans un TGV, c'est super. Franchement, le service est bien, mais les prix, c'est plus possible. Ça a énormément augmenté. Là, en ce moment, on nous pousse, Fred Hermel, à ne plus prendre l'avion parce qu'on pollue, etc. Et comme le disait Pierre, on nous pousse à ne plus prendre l'avion. Mais enfin, les tarifs de l'avion sont 3 fois moins chers que ceux du train. Donc, à un moment, la SNCF prend aussi le risque qu'il y ait moins de gens qui prennent le train. Et moins il y aura de gens qui prendront le train, plus les billets sont encore chers. Enfin, ça ne va pas, quoi.
Bien sûr, bien sûr. Et le mot honteux me paraît, contrairement à l'avis que donne Pierre, et bien sûr que c'est honteux. Parce que la SNCF, c'est pas une entreprise comme les autres. Vous savez de combien l'État vient d'annuler 35 milliards de dettes de la SNCF en 4 ans. L'État, Louis XIV disait l'État c'est moi, non, aujourd'hui l'État c'est nous. Avec nos impôts, on a déjà payé. C'est-à-dire qu'on paye deux fois en fait. C'est-à-dire qu'on paye quand on prend le train, mais on paye aussi, même quand on ne prend pas le train, on paye la SNCF, puisque l'État rembourse les erreurs de gestion de la SNCF. 35 milliards d'euros en 4 ans. Vous imaginez ce que ça représente. Donc il y a un vrai problème. Et d'ailleurs, vous savez, il y a une manière très simple de voir pourquoi les prix ont augmenté. Déjà la sensation personnelle. Mais regardez quand vous vous connectez sur ce machin là.
SNCF Connect.
Voilà. Oui, je sais parce que j'ai toujours pas compris comment ça marche.
Tous les jours, donc
c'est horrible. Vous regardez le prix en deuxième classe et le prix en première classe. Et en fait, parfois, la plupart du temps, le prix en première classe, il est d'un euro, deux euros.
Il est à peine plus cher.
À peine plus cher. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le deuxième classe, il est tellement cher qu'en première classe, ils peuvent pas. Sinon, on aurait des prix encore plus délirants. Donc, et parfois même, c'est moins, comme il y a cette histoire des algorithmes avec la demande, parfois c'est moins cher en première classe qu'en deuxième classe. Donc, il y a un vrai problème de gestion de la SNCF. Et à partir du moment où c'est une entreprise publique, c'est une entreprise qui devrait tenir compte de l'inflation et de la difficulté qu'ont les gens aujourd'hui en France à vivre, et devrait faire un effort à ce niveau-là.
Fatima, je vous garde au chaud quelques instants parce qu'on est avec David qui est pressé et qui nous appelle de Croix-la-Forêt dans l'Oise. Bonjour David.
Bonjour, je suis pressé, désolé. Bonjour et enchanté à tout le monde.
Bah oui, bah merci. D'accord. Écoutez, très bien David, on vous prend quand même en ligne même si vous êtes à Paris. David, quel est votre point de vue sur la question? Est-ce que vous trouvez ça honteux que la SNCF envisage d'augmenter ses billets?
Alors, une fois n'est pas coutume, en fait, c'est la première fois, je suis totalement d'accord avec Fred Hermel. Évidemment que c'est une honte. Moi, j'ai déménagé de Paris, comme tous les Parisiens, avec le Covid, pour aller au Vert, parce que j'ai choisi une ville qui était, sur le papier, à 17 minutes.
David, il faut vraiment parler mieux dans votre téléphone, là, parce qu'on vous entend très très mal. Allez-y.
Là, c'est mieux, n'est-ce pas ?
Ah oui, c'est mieux, ouais.
Ok, donc je disais, moi j'ai déménagé dans l'Oise, dans une ville qui est à 17 minutes direct Gare du Nord.
D'accord.
Donc en fait, sur le papier, tout est fantastique. Mais avant de parler de quoi que ce soit, quand vous augmentez vos prix dans une entreprise normale, moi je suis chasseur de tête, donc je connais un peu les entreprises, il faut une qualité de service en fait. Donc aujourd'hui, la qualité de service, elle n'existe pas. On prône le train pour l'écologie, etc.
Ah, si, c'est bien le train quand même.
Ça dépend.
Bah, c'est changé, c'est super. Mais un train qui roule pas, ça sert à quoi?
Ça sert à rien aussi.
Voilà. Donc, tous les jours, les usagers de Hauts-de-France qui viennent sur Paris se retrouvent avec des trains annulés et on débouche le champagne parce que le train a seulement une demi-heure ou une heure de retard. Il y a des problèmes systématiquement. Donc, évidemment que c'est une honte d'augmenter les prix, d'autant que lorsqu'il y a des problèmes, j'ai jamais vu les SNCF nous rembourser nos abonnements. Ni une partie, ni rien. Oui. Donc aujourd'hui, en pleine inflation, j'entends l'énergie, etc., mais l'inflation, c'est pour tout le monde pareil, encore plus pour les particuliers. Donc c'est plus qu'une honte, en fait. C'est presque une insulte.
Oui, et puis en plus, le train, ça ne sert pas qu'à partir en vacances. Ça sert aussi à aller travailler. C'est votre cas, notamment, David. Mais... Merci en tout cas, David, d'avoir été avec nous au 32-16. Fatima, est-ce que c'est devenu un luxe de prendre le train, finalement, aujourd'hui?
Bah, c'est sûr qu'on n'est plus au temps où c'était un service public à part entière et où, par exemple, on en était au prix unique au kilométrage. Effectivement. Et depuis, bah, on est quand même rentré dans une dynamique de, on paye le prix, c'est le cas de le dire, de la libéralisation de ce marché du transport ferroviaire. Et quand le PDG il se justifie en disant mais oui vous vous rendez compte que l'électricité est plus chère, ben je vous rappelle que pendant cette même période c'est aussi plus cher pour les usagers, c'est-à-dire que là les personnes elles sont en train de payer tout plus cher et elles vont en plus devoir payer leurs déplacements plus cher. Et moi je pense que effectivement les déplacements c'est des voyages, d'ailleurs c'est aussi un droit le voyage récréatif, mais c'est aussi pour aller voir sa famille dans tel endroit et pour moi
pour travailler encore une fois
ces genres de déplacements ça ne devrait pas répondre à une logique d'offre et de demande. C'est pas ma faute par exemple si je dois aller voir ma grand-mère qui est dans une ville qui est plus cotée que d'autres. Et donc c'est pour ça que pour moi on devrait vraiment revenir à une logique de plus tu t'éloignes loin plus tu payes, c'est au kilométrage et c'est un prêt unique au moins, on sait. Oui. Et à ce moment-là, effectivement, ce que tu dis, c'est qu'il y a une ambiguïté dans le statut de la SNCF. C'est qu'en gros, c'est un service public quand il faut le renflouer. C'est une entreprise privée quand effectivement, il faut mettre des milliards sur la table pour se donner les apparences d'une entreprise privée avec la communication. On ne parle plus d'usagers, on parle de clients. Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'il y a ce divorce et ce désamour des Français pour le service public qui n'en est plus exactement un. Donc à un moment, il faut trancher, il faut choisir. Et pour moi, étant un droit, on devrait pouvoir garantir toujours, et quelle que soit la conjoncture, le droit de se déplacer sur la base de la distance
Comment le prix est fixé à partir de là? Je peux rejoindre l'idée qu'effectivement, faire un prix au kilomètre, mais comment, en amont, dès le départ, fixer le prix? Ça serait passé par le prix de marché ou par le prix d'usage, par la valeur.
Ou indexé à l'inflation.
Justement, c'est bien ce qu'on t'explique, c'est que indexé à l'inflation, si on a une inflation du prix de l'électricité hors bouclier tarifaire de plus de 90%, bah effectivement, malheureusement, si c'est indexé sur cette inflation, les prix de fait augmentent. De fait. Alors, on peut s'en offusquer, on peut dire que c'est malheureux, mais c'est un signal prix. Donc, soit on est sur une logique de marché et on dit, on est indexé sur l'inflation, donc s'il y a une hausse des prix, s'il y a une hausse de l'électricité, il y a une hausse des prix. Soit on dit, effectivement, c'est un service public qui rend service à ses usagers, étatiquement, et de façon très planifiée, l'État fixe un tarif.
Fred Hermel, est-ce que si jamais la SNCF augmente ses tarifs, il doit augmenter quel tarif en priorité? Est-ce que tu dois taxer, je veux dire, au max, par exemple, les premières, les places en première? Tu disais que c'était à peine plus cher que les secondes. Est-ce que tu dois taxer plus le week-end parce que tu te dis, c'est les gens qui partent en vacances, taxer plus les gens qui partent en vacances, par exemple, que, là je parle des TGV, que les gens qui travaillent? Qui doit être le plus taxé au départ?
J'écoutais ce que disait Rémi. Il y avait une possibilité d'augmenter certains voyages en semaine, puisqu'on considère que ce sont surtout les hommes d'affaires qui travaillent.
Donc tu vas taxer les gens qui travaillent.
C'est terrible. Et quand c'est un déplacement professionnel, tu taxes les entreprises. Donc c'est encore un surcoût pour les entreprises. Donc c'est mauvais pour l'économie. Non, mais je veux dire, c'est dingue à ce niveau-là. Mais je trouve ça terrible, de toute façon, de devoir choisir entre les gens.
Oui, mais tu peux taxer un peu les premières, à la limite. Tu te dis, non, mais t'es pas obligé de voyager en première. C'est-à-dire que tu peux voyager en seconde, donc tu peux.
Si tu prends Thierry Marx pour faire la préparation dans les salons de première classe.
Oui. C'est pas les salons de première classe, c'est les wagons restaurants, c'est pour tout le monde.
D'accord.
Oui,
mais admettons, si tu augmentes la première et tu fais comme dans l'avion, tu fais les business, ultra business, où là t'as vraiment un accueil assez sélectif, augmente les prix. Là, oui.
Là, aujourd'hui, la différence entre la première et la seconde.
Elle est minime.
Parce que la seconde est plutôt pas mal. Et la première, franchement,
je vois pas de différence.
La race Paris Nord, je peux vous dire que les wagons de première qui viennent de Dunkerque,
aucune différence.
Hein. L'autre jour, le Repostec était fixé à côté avec du scotch.
En première,
parce que j'avais pris première, c'était 1 euro moins cher que la seconde.
Il fut un temps où dans le métro, il y avait des premières classes et secondes. Oui. Là, je pense aussi que c'est quelque chose à mettre sur la table. Faut-il garder, et surtout quand on voit que
les premières,
est aussi minime, pourquoi garantir tellement plus de confort à quelqu'un qui,
parce que tu payes plus cher, parce que t'as pas envie d'être
dérangé. Donc, on est plus dans une vision de service public.
Mais attends, tu payes plus cher.
Franchement, qui a encore la nostalgie des premières classes?
Mais est-ce que tu accepterais
c'est un choix. Si tu acceptes de payer plus cher pour avoir ton confort, ta prise.
Pour réduire les prix de seconde.
Quand je suis dans le train, que si je fais un trajet de train qui fait 3h50, j'ai juste envie d'avoir une prise, d'être tranquille, de pas être dérangé. Je me mets en place isolée.
Moi aussi, même si j'ai pas les moyens.
Moi je serais prête à payer plus. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que tes places en première, elles sont à peine plus chères que les places en seconde. Donc, ils devraient augmenter les places en première. Mais je vois pas pourquoi il y aurait pas de places en première.
Et en plus, tu pourrais réduire le prix des secondes.
Attends.
Pourrais, en plus, en augmentant le prix des premières et en te garantissant un service de première classe, mais vraiment un vrai service de première classe, tu pourrais t'éviter une augmentation du prix des secondes. Voir le
moi, en fait, ce genre de classification, ça, c'est au-delà de la question.
Mais on est
de
sur une logique de taxation des
poches,
c'est pareil.
C'est vraiment une question de créer des paysages de classe.
Oui, mais
est-ce que je peux juste m'exprimer
si j'ai le droit?
Oui, quand on, quand je vois des personnes en fait qui viennent d'origines sociales différentes, déjà on le sait, on l'analysait, plus tu as du, tu es d'origine sociale supérieure, plus on va t'inviter gratuitement par exemple.
Oui, bon, ça d'accord. Enfin, c'est
un budget. Quand on, quand on voit le pays, en fait, c'est un rapport de légitimation et de naturalisation des classes quand en fait ces personnes sont tout le temps choyées, avec tout le temps des personnes encore plus à leur service.
Mais tu payes pour être choyée.
Dans des environnements tout le temps plus confortables.
Mais tu payes pour être choyée.
Moi qui suis, je le reconnais, c'est, j'ai le droit de voilà, qui suis pour une abolition de la société des classes. Ah oui, je pense que Ça pousse encore plus les personnes à vivre dans des environnements naturalisés qui sont à leur service, etc. Et qui, ne, qui n'est pas censé être justifié
alors,
à la base.
Alors on enlève la carte famille nombreuse parce qu'ils ont des avantages aussi. Comment on fait
Pourquoi non, attends, les avantages, c'est pas la même chose que ce qu'on observe dans le décorum qu'il y a dans même
pas. Moi, je vais t'expliquer pourquoi quand je peux, je prends la première. Parce que j'ai pas envie d'avoir des gamins qui gueulent autour de moi.
T'as aussi des gens.
Ouais, mais il y en a moins.
Aussi des gosses riches en première.
Non, non, mais il y a moins d'enfants. Non, non, mais il y a moins. Il y a moins d'enfants en première qu'en deuxième.
Mais non, que non. Moi, je peux dire qu'en première, t'as les carrés, les carrés ou les wagons.
Et c'est insupportable.
Pour avoir de la place,
on est d'accord.
C'est
tout. Et moi, je suis
pour avoir plus de place.
Et moi, je suis. Moi, si on me garantit, je paye un peu plus cher et c'est interdit aux enfants, mais je préfère. Vraiment, c'est horrible ce que je dis, mais à un moment, quand tu fais 3 heures de train.
Moi, tu commences ta phrase par c'est horrible ce que je dis.
Et bah oui, non, mais sérieux.
Enfin, moi, je le comprends.
Et quand tu fais 3 heures, 4 heures de train et que t'as les gamins.
T'as les wagons silence maintenant.
Le truc. Ouais, mais c'est.
Non, mais ça existe.
En fait, t'as les
wagons silence. Et je pense que c'est dommage de pouvoir avoir cet avantage juste parce qu'on peut mettre plus d'argent sur la table. Parce que je pense que ça irrite tout le monde, quoi que ce soit.
Mais c'est comme les crèches.
Quelle que soit notre origine sociale.
Pardon, mais les crèches, par exemple, quand t'es riche, tu payes beaucoup plus cher, mais tu finances l'ensemble de la crèche pour ceux qui ont moins d'argent. Donc à un moment. Non mais voilà,
c'est
et heureusement qu'il y a des riches aussi pour financer les crèches,
c'est la
payer des impôts,
système de
législation du mécénat,
c'est-à-dire qu'on essaie de justifier à travers les siècles que des personnes soient plus riches parce qu'au moins elles servent à financer.
Oui, mais au moins elles financent
les riches.
Et moi, dans mon utopie, on dépasse cela.
Mais oui, tant mieux, parce que la France est le pays le plus redistributif du monde. Mais il n'y a pas mieux.
Je voudrais qu'on prenne
un système super inégalitaire au niveau des
classes. On est sur un autre débat. On va reprendre Arnaud Aimé, c'est notre invité sur ce débat SNCF. Il est spécialiste des transports chez SIA Partners, un cabinet de conseil. Merci Arnaud Aimé d'être avec nous.
Merci de me recevoir.
Alors, on part très loin avec ce débat sur la SNCF.
C'est toujours passionnel.
Mais toujours. Mais la SNCF, toujours. Mais c'est fou, hein. On est incapable de faire un débat sur la SNCF sans s'embrouiller.
Il y a 65 millions de PDG de la SNCF en France.
Ouais, on disait ça aussi sur les sélectionneurs. Arnaud Aimé, est-ce que c'est honteux que la SNCF augmente le prix de ses billets?
Est-ce que c'est honteux que les prix de l'énergie augmentent en France? Moi, je préférerais qu'ils augmentent pas, effectivement. Après, la SNCF, elle subit l'explosion des prix d'électricité. C'est l'entreprise qui consomme le plus d'électricité en France. À elle seule, elle consomme autant qu'un réacteur nucléaire. Et elle achète l'électricité beaucoup plus cher. Et en plus, et ça fait par contre plusieurs années, elle paye cher les péages pour pouvoir utiliser les voies ferrées. En fait, ce qu'il faut... Il faut bien distinguer en fait que la SNCF, c'est trois choses. C'est une entreprise qui s'appelle SNCF Réseau, qui gère les voies ferrées. C'est l'équivalent d'Aéroports de Paris, par exemple. Et cette première partie, c'est celle qui a accumulé en fait beaucoup de dettes depuis quand? En fait, depuis le 19e siècle. C'est depuis qu'on construit des voies ferrées en France, qu'on a laissé le soin à des entreprises qui ensuite ont été nationalisées, de payer pour la construction des voies. Et du coup, la SNCF, SNCF Réseau, subit une dette, traîne une dette depuis 150 ans. Donc c'est cette dette-là qui avait jamais été prise en charge par l'État, parce que c'est pas l'État qui a payé pour la construction de la voie ferrée.
Normalement, l'État paye jamais ses dettes.
Je vous laisse.
Et l'intérêt
de cette parole, mais la SNCF Réseau subit ça. Donc ce qui a été remboursé en partie, ce qui a été payé en partie par l'État, les 35 milliards dont on parlait tout à l'heure, c'est en fait cette dette qui a été accumulée depuis des dizaines, voire centaines d'années. Alors que pour les aéroports et la route, c'est pas les camionneurs, c'est pas les autocaristes et c'est pas les compagnies aériennes qui payent pour la construction des aéroports.
C'est
et
ça.
Routes.
Mais il n'y avait pas un autre moyen, je veux dire, pour la SNCF que d'augmenter le prix des billets, parce que franchement, on prend tous nos trains autour de ce plateau, billets, mais c'est horriblement cher.
Sur le prix des billets, il faut distinguer le cas du du train, des trains du quotidien, les TER, les Transilien qui sont les trains de banlieue, qui sont peut-être ceux qu'utilisent David qui est parti dans l'Oise dont on parlait tout à l'heure. Pour ces trains-là du quotidien, c'est pas la SNCF qui fixe les tarifs. C'est le conseil régional. Et le conseil régional, il applique la politique tarifaire et électorale qu'il souhaite. Il peut rendre les billets gratuits, il peut les faire payer deux fois plus cher. C'est le conseil régional qui s'en occupe. Et par contre, ce train du quotidien, c'est pour moi effectivement un service public dans la mesure où c'est le contribuable qui paye l'essentiel du coût. Quand vous payez un abonnement mensuel ou même un titre unitaire, vous payez qu'un faible pourcentage de ce que ça coûte vraiment. Le reste, c'est vos impôts régionaux. Donc là, effectivement, c'est un service public dans la mesure où c'est les contribuables qui payent. Pour le TGV, aujourd'hui, alors on peut trouver ça bien ou pas bien, mais objectivement, le TGV, c'est pas un service public.
C'est pas, non, service ça
public,
plus, ouais.
C'est pas le public, c'est pas les Français qui payent. C'est seulement ceux qui utilisent le train. Donc, on pourrait souhaiter que ce soit l'ensemble des Français qui payent et qu'on subventionne les trajets TGV pour du loisir ou pour les hommes d'affaires. Ça, c'est un choix politique. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est seulement les utilisateurs du train qui payent, qui payent le train.
Donc, heureusement qu'il y a des gens en première qui payent très cher, quoi.
Bah, oui, parce
c'est
que.
Il fut un temps où c'était un vrai service public. C'est pour ça qu'il y avait le prix unique.
Peut-être qu'on offre un peu plus de confort aux voyageurs d'affaires s'ils vont en première classe ou s'ils ont un échange remboursement simplifié. Mais la vérité est vraie, c'est que la SNCF, elle se fait beaucoup plus d'argent en marge sur des voyageurs d'affaires que sur des clients loisirs.
Donc, évidemment.
Les techniques de yield management, ce que vous appelez tout à l'heure les algorithmes, en fait, en gros, c'est faire payer les riches pour donner des petits prix aux pauvres.
Voilà, oui. Donc,
c'est pour ça que c'est de la redistribution.
Voilà, heureusement qu'il y a encore des riches qui prennent le train.
Redistribution militante, c'est aussi ce que font les compagnies aériennes, les hôteliers, les clubs de tourisme.
Tout à fait.
C'est ce que fait tout le monde dans le secteur privé. Et le TGV, n'étant pas subventionné par l'État, se débrouille pour gagner de l'argent là où il peut, pour ensuite faire circuler des trains à des horaires creux ou faire payer des Ouigo, des Prums, aux voyageurs loisirs qui ont très peu d'argent.
Alors, on a Stéphane qui nous appelle de Paris et qui est commercial. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Et vous avez renoncé à l'avion pour les fêtes, au train, pardon, pour les fêtes de Noël.
Exactement. En fait, j'ai voulu prendre mes billets de train avant la sortie des billets. J'ai vu que c'était pas disponible avant le 5 octobre. Donc j'ai regardé les tarifs sur l'avion. Et puis il y a deux compagnies, en prenant un aller avec une compagnie et un retour avec une autre compagnie. Ouais. Je m'en suis sorti à 78€ aller-retour. Par curiosité ce matin, j'ai regardé mes billets que j'avais à peu près mis en alerte, j'en avais pour 210€.
Mais c'est ça.
210€, et sachant aussi que Paris-Toulouse, je le fais souvent, parce que j'ai ma famille là-bas, moi je suis à Paris, ma famille est à Toulouse, et avant, le dernier voyage que j'ai fait, j'en ai eu pour 150€, mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais même pas en SNCF, j'étais avec un train classique SNCF, j'étais en Ouigo. Donc 150€ pour du Ouigo aller-retour.
Ah oui,
donc
c'est cher.
C'était déjà excessivement cher.
C'est cher. En plus, il faut rajouter les options, l'option bagage et l'option, l'option prise. Donc ça fait cher. Et donc Stéphane, et c'est vraiment à cause du tarif que vous avez opté pour l'avion, en fait.
Exactement, c'est à cause du tarif. Et je trouve un peu étonnant.
C'est aberrant.
Sachant qu'avec la consommation de kérosène d'un avion, c'est quand même très. Enfin, moi, j'essaie de prendre le train à maximum pour éviter de prendre l'avion en France. Mais là, il y a quand même plus de 100€ de différence. Donc c'était pas négligeable, quoi.
Voilà, évidemment, quand vous êtes une famille de 4, par exemple, 100€ x 4, c'est 400€. Et donc, il n'y a même pas de débat. C'est-à-dire que les gens vont pas payer 400€ de plus pour prendre le train. Et en plus, évidemment, le trajet en train est beaucoup plus long que celui en avion. Et voilà, et c'est vrai que
si on veut
nous faire prendre le train, il va falloir faire.
Exactement. Si on est vraiment dans cette ère de la sobriété voulue par le gouvernement, plutôt que de mettre des cols roulés, il faudrait vraiment penser et réfléchir à un plan d'action pour l'usage du train plutôt que de l'avion. On a des écarts de plus de 150€ parfois pour une même destination. Entre le train et l'avion. Si vraiment le gouvernement a l'ambition de passer par un plan de sobriété et de transition énergétique, il faut qu'il soutienne le train et peut-être de taxer à ce moment-là l'avion et les premières. Avant de polémiquer, Fred, j'ai dit peut-être, je ne sais pas, c'est pas la solution. Simplement, je te dis qu'à l'ère de la sobriété et de l'obligation à la transition énergétique et écologique, il faut réfléchir à un véritable plan de soutien du train, c'est tout. Après, le reste, je ne sais pas.
En tout cas, on a fait un sondage sur le compte Twitter d'Estelle Midi. La SNCF envisage d'augmenter le prix de ses billets. Est-ce que c'est honteux ou est-ce que c'est normal?
Pour la majorité, c'est honteux, mais c'est pas aussi massif qu'on aurait pu.
Je pensais à 90%.
C'est 67% de ceux qui ont voté sur nos réseaux sociaux qui estiment que c'est honteux.
Le reste, c'est les cheminots.
Peut-être.
Allez, dans un instant, on parlera d'un anniversaire, celui de MeToo. 5 ans depuis le début du mouvement. Est-ce qu'on a vraiment évolué depuis le début de MeToo? Et est-ce que le comportement des hommes a changé? À tout de suite au 32-16 et sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour sur RMC, RMC Story, canal 23, toujours avec Rémi Barre et Pierre Rondeau, Fatima Benomar et Fred Hermel, avec vous bien sûr au 32-16, pour réagir à l'anniversaire du jour, et c'est celui de MeToo. 5 ans après les révélations sur l'affaire Weinstein dans le New York Times, ce mouvement a pris une ampleur incroyable dans le monde entier. Hashtag dédié, libération de la parole des femmes, enquête, révélation. On peut dire que MeToo a été une révolution, Rémi, pour les femmes bien sûr, mais aussi les hommes.
C'est ce que s'accordent à dire la plupart des militantes féministes, qui parlent de révolution MeToo, même si la libération de la parole se poursuit et qu'il y a encore bien du chemin à parcourir. Globalement, le nombre de plaintes pour violences sexistes et sexuelles a fortement augmenté, avec une hausse de 33% sur un an. Ça, ce sont les derniers chiffres. Libération de la parole donc. Mais le viol reste également et toujours le crime le moins puni. En 2020, 1732 viols de femmes majeures ont fait l'objet d'une condamnation en France. Sur les 94 000 plaintes déposées pour viol ou tentative, libération de la parole, tout de même, avec parfois ses complexités, comme par exemple dans l'affaire opposant la journaliste Sandra Müller à l'ancien patron de la chaîne télé Equidia, Éric Brion. C'était le début du hashtag balance ton porc. Elle accusait l'homme de l'avoir harcelé sexuellement. Il reconnaîtra des propos déplacés, s'excusera, mais gagnera son procès en diffamation, dénonçant un amalgame entre drague lourde et harcèlement sexuel, avant qu'en appel, finalement, la journaliste soit reconnue comme ayant était de bonne foi. C'est un exemple parmi d'autres de la complexité de ces affaires.
Alors, avec MeToo, le comportement des hommes a-t-il changé? Fatima Benomar.
La seule chose qui a changé, c'est qu'on a enfin, par rapport à ces enjeux, la place qu'ils méritent dans le débat public. Maintenant, non. Tu citais les chiffres du Haut Conseil à l'égalité. Et il y a encore quelques semaines, on parlait des représentations en fait du viol et des violences sexuelles chez les jeunes, qui sont toujours aussi catastrophiques. Et on est toujours à 10% de plaintes. Une fois qu'on porte plainte, il n'y a que 10% des accusés pour viol qui sont condamnés, alors que c'est plus que exactement l'inverse. Toutes les enquêtes qui montrent, qui parlent en fait des fausses accusations, disent qu'elles sont entre 3 à 8% grand maximum. C'est-à-dire que la justice part du principe que 9 femmes sur 10 portent plainte en mandant,
pour des vraies raisons, entre guillemets, oui.
Bah non, pour des fausses raisons. Alors que les enquêtes montrent l'inverse, et on est surtout confronté au classement sans suite compulsif. C'est-à-dire quand les femmes.
Mais là, on parle de MeToo, là, on est sur un autre débat. Est-ce que depuis MeToo, il y a eu quand même un changement positif, et est-ce que les hommes ont changé de comportement? Moi, je vois que les comportements, ils ont changé, même dans les rédactions. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis MeToo.
En tout cas, c'est sûr que comme c'est devenu un sujet, c'est sûr qu'il y a une alerte, on va dire. C'est-à-dire que, très clairement, moi, j'ai commencé à militer en 2009. Non seulement c'était pas un sujet, mais par exemple quand il y avait l'affaire DSK, on avait eu droit aux pires tirades. Il y a pas mort d'homme, ce n'est qu'un troussage de domestique, etc. Là, je pense qu'aujourd'hui, les contradicteurs font plus attention à ce qu'ils osent, et à leur ligne de défense. Et puis même, il y a une reconnaissance, on va dire, des faits. Par exemple, pendant des années, Mads Neff, qui limite s'auto-incriminait dans son œuvre, l'écrivain pédocriminel Mads Neff, et ça passe ses crèmes. Il a fallu que l'une de ses victimes grandisse, Vanessa Springora, et prennent la plume et parlent du consentement. Et comment on a pu penser en fait que ce consentement était libre et non faussé, qu'il n'était pas biaisé. Donc oui, les données du débat public changent. Maintenant, on n'arrive toujours pas à la réparation et à la reconnaissance pour les victimes.
Fred Hermel, est-ce que vous avez changé de comportement depuis... Vous vous comportez toujours bien, Fred, mais
oui,
de comportement depuis MeToo, et est-ce que ça vous a fait évoluer?
Alors déjà, je me réjouis que Fatima Benomar dénonce le laxisme de la justice. Oui, c'est vrai, il y a laxisme de la justice. Mais dans tous les domaines. Donc je me réjouis que même les gens de gauche, affirmés de gauche, reconnaissent cela. Est-ce que j'ai changé? Moi, j'ai toujours été... moi, j'ai toujours dragué avec des poèmes. Donc voilà. Oui. Je suis célibataire à 53 ans.
Ça dépend ce que vous dites. Il peut y avoir des poèmes qui prêtent à...
On disait de Mads Neff qu'il avait une très belle plume.
Oui, enfin, je ne l'avais jamais lu. Je ne le connaissais pas. Désolé, mon domaine de culture, je ne connaissais pas cet écrivain avant le bouquin Le Consentement. Oui, je n'ai pas changé mon comportement avec les femmes, parce que j'ai toujours été respectueux, mais parce que j'ai été élevé entre 3 femmes, ma grand-mère, ma mère, ma sœur. J'ai ensuite dans la parole, c'est vrai qu'aujourd'hui, les blagues, etc., dans la rédaction, on fait attention, quoi. Par rapport à il y a 5 ans.
Là, il y a eu un changement de comportement, on est d'accord.
Mais oui, parce que il y a une sorte de corset aujourd'hui. Il y a une sorte de peur chez les hommes de dépasser une limite ou de se faire accuser de je sais pas quoi pour une blague. Donc oui, je vois très bien avec qui je peux faire une blague aujourd'hui.
Oui, donc c'est pas les comportements qui ont évolué, c'est la peur qui est arrivée. C'est quoi
de différent? Non, mais sur des blagues, je dis sur des blagues ou sur des trucs.
Il a raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, il y a enfin eu, grâce à MeToo, il y a eu toute une dynamique qui a fait des vraies enquêtes, par exemple, sur les cas Hulot et PPDA, qui par ailleurs sont toujours innocents aux yeux de la loi. Mais très clair. C'est parce qu'on a aménagé, et ça, et je suis sûre que maintenant, plein d'hommes agresseurs sont en train de se dire.
Moi, je ne suis pas d'agresseur.
Mais non, je parle de plein d'hommes d'agresseurs sont en train de se dire, à tout moment, je vais avoir un coup de fil d'Élise Lucet sur des faits que j'ai commis il y a 40 ans.
Oui, alors après il y a le problème des dérives de MeToo. On voit l'exemple de Julien Bayou. On voit ce qu'est aujourd'hui. Quand tu vois que Julien Bayou, qui est totalement là-dedans, aujourd'hui parle de maccartisme, c'est que vraiment, il y a eu un dévoiement d'un mouvement qui pouvait être positif. Le problème aujourd'hui, c'est que...
Donc, il ne faudrait pas que ce mouvement soit confisqué, quoi, ça vous dites.
Il est déjà confisqué. Et c'est vrai que dans la liberté d'expression, aujourd'hui, MeToo fait peser une chape de plomb, ça c'est clair. Ensuite, par exemple, on va être honnête. Sincèrement, je ne dis pas la même chose à une femme de 25 ans qu'à une femme de mon âge.
C'est normal.
Oui, c'est normal. Oui, mais aussi parce qu'avant tu pouvais peut-être déconner, etc., faire des blagues, etc. Et aujourd'hui, par peur de la réaction, tu ne fais pas de blagues.
D'accord.
Bon, je continue à subir malheureusement des blagues sexistes et du harcèlement dans la rue qui vont bien au-delà par ailleurs des blagues sexistes.
Le harcèlement dans la rue. Alors, MeToo n'a rien changé. C'est de pire en pire. Attends, je termine. C'est de pire en pire. D'accord. Et là, on devrait. Et dans les transports en commun, c'est du délire. Il suffit de suivre. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'aujourd'hui, les femmes font des vidéos et les mettent sur les réseaux sociaux pour dénoncer ces agressions.
C'est pas que dans de loin, l'espace public n'est pas le plus dangereux pour les femmes. Et de loin, l'espace le plus dangereux pour les femmes, et ça, toutes les statistiques le disent, c'est le foyer, c'est la maison. Oui. Ce sont les violences masculines privées. Et des Adèle Haenel et des Camille Kouchner, on en parle aujourd'hui parce qu'elles ont eu un certain aura. Mais combien de personnes victimes de violences intrafamiliales, incestueuses, une personne sur 10 en France disent avoir vécu un inceste. Quand même, un jour, il va falloir que ce MeToo là explose encore plus. Et dans les milieux du cinéma, Adèle Haenel en a parlé, mais les systèmes de ce qui se passe dans les tournages, c'est quand même incroyable. Ce sont des zones d'impunité incroyables.
Pierre Rondeau, est-ce que vous, comme beaucoup d'hommes, MeToo vous a fait réfléchir? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui, au début de MeToo, se sont dit, est-ce qu'à un moment, j'ai pas déconné? Est-ce que j'ai pas eu un comportement qui pourrait prêter
mais bien évidemment. D'ailleurs, on a tous été obligés, je pense, Rémi ou Fred et moi... sous le plateau, on a tous été obligés, au moment de MeToo et de ce hashtag, à se poser des questions si effectivement on n'avait pas, dans notre histoire, dans notre passé, pu déranger par des dragues lourdes ou des comportements peu respectueux vis-à-vis de la gente féminine. Donc bien évidemment, on s'est posé la question et je me suis posé la question et je continue à me poser la question. Je pense pas, alors pour reprendre le terme du débat, parce que n'étant pas totalement et pleinement compétent sur le sujet des violences faites aux femmes ou même des formes de discrimination vis-à-vis des femmes, j'ai simplement donné mon point de vue, mon opinion personnelle. De là à dire que j'ai peur, alors comme je me suis posé la question et comme maintenant il y a une injonction à se poser la question du passé, je me suis rendu compte qu'effectivement, je n'avais pas à avoir peur de ce que j'ai pu faire par le passé.
D'accord.
Déjà, premier élément. Donc, je n'ai pas peur et je ne pense pas avoir changé mon comportement. Je rejoins Fred là-dessus. Peut-être parce que, de par mon éducation, je ne me suis jamais, je pense, mal comporté vis-à-vis des femmes. Je n'ai pas à avoir peur des suites ou des représailles. Peut-être que j'aurai des problèmes plus tard, mais en tout cas, moi, personnellement, c'est mon humble avis. Je n'ai pas peur. Par contre, il y a effectivement une injonction et inconsciemment ou consciemment cela pose à dorénavant respecter l'ensemble finalement des personnes, y compris les femmes comme les hommes d'ailleurs, on respecte tout le monde, qu'elles soient les blagues.
Tu fais plus gaffe, c'est ça que
je
veux dire.
Je veux dire les blagues sexistes, les blagues homophobes, les blagues antisémites, les blagues racistes. Il y a 30 ans, 40 ans, c'était totalement banalisé, accepté, bien vu, bien évidemment, et c'est normal. C'est pas une question de peur après MeToo. C'est normal de s'arrêter, de se censurer. C'est une prise de conscience, mais qui est normale. Donc c'est pour ça que je parlerai pas de peur. C'est simplement une prise de conscience, c'est comme ça. Tu le dis, de simplement vivre pleinement et bien avec l'ensemble des membres de la société et ne pas s'autoriser pour une raison rigolote ou de déconnade à faire des blagues sexistes ou homophobes ou antisémites.
Alors on est avec Thomas qui nous appelait de Montpellier au 32-16 et qui est commercial. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous sur RMC. Thomas, est-ce que le comportement des hommes a changé depuis MeToo?
Alors, je ne sais pas si c'est le comportement des hommes en général, mais en tout cas, le mien, oui. De par tout ce qu'on peut entendre, je suis amené à être de temps en temps à travailler avec des femmes. Aujourd'hui, je monte pas dans un ascenseur avec une femme.
Ah, carrément, à l'américaine, quoi.
Ah ouais, non, aujourd'hui on entend tellement de choses, ça peut tellement dévier dans un rendez-vous avec une femme, je ferme pas la porte du bureau.
D'accord, mais parce que vous avez peur de quoi, Thomas ?
Mais qu'est-ce qui me dit que dans un mois, pour X raison, cette femme-là, elle a besoin d'argent et elle dit que j'ai pu avoir un comportement déplacé, je l'ai embrassé, je l'ai peu importe.
Ouais, c'est pas une histoire d'argent, Thomas. Mais
Thomas, vous l'avez pas fait ? Pourquoi s'alarmer, pourquoi s'inquiéter en disant non, je vais pas fermer la porte.
C'est pas une histoire. Aux États-Unis,
peut-être. Si vous voulez, mais là, en l'occurrence, Thomas, c'est pas fermer la porte ou pas du bureau, c'est l'embrasser ou pas la personne.
Non, Thomas, il te dit avec MeToo, il a peur d'être accusé.
Fatima vient nous expliquer que l'immense majorité des plaignants.
Les stats, elles ne valent que quand ça tombe là-dessus.
On est en train de tomber dans une américanisation du débat et une hystérisation du débat.
Thomas, il a le droit de penser ce qu'il veut.
Je le dis à Thomas. Thomas, ensuite, on pourra discuter, pourra répondre. Propos. Mais Thomas, n'ayez pas peur si vous n'avez pas justement...
Mais attendez,
là, on est en train de diaboliser le débat.
Le client porte plainte pour un café servi trop chaud dans un McDo. Le client porte plainte.
Mais ça n'arrive pas en France, Thomas. C'est un exemple juridique américain.
Mais quitter pour dire à Thomas, c'est
juste ce qu'il doit faire ou pas, en fait. Je ne dis pas, je ne suis pas en train de le dire. Simplement, il est en train de calquer le modèle américain sur le modèle franco-français.
Et alors, si lui
le
sent comme ça.
Mais je ne veux pas avoir peur.
Mais si lui le sent comme ça.
On n'est pas dans un conflit des sexes, dans une guerre des sexes.
Mais ça, c'est ce que toi, tu dis. Mais Thomas,
moi, je l'invite. Je l'affirme pas que je l'invite à ne pas avoir peur.
Mais quand même, ça doit vous peser, Thomas.
Non, c'est pas. Bah non, c'est pas. Après, ça pèse celui
qui
problème à celui qui aurait peut-être des intentions déplacées. Mais si c'est juste anticipé pour ne pas avoir ce genre de désagréments, c'est pas en soi à vivre, c'est pas gênant. Après, étant séparé depuis peu, demain, je sais pas comment je vais faire pour aborder une femme.
D'accord. Bah en tout cas, merci beaucoup Thomas d'avoir été avec nous sur RMC. Fatima, vous vouliez répondre.
Non, je suis un peu mortifiée que 5 ans plus tard le débat soit de cette teneur-là. Enfin, s'il y a eu un MeToo média, un MeToo inceste, un MeToo politique, un MeToo sport, etc., c'est parce que dans toutes ces sphères, il y a des femmes qui subissent l'omerta, qui subissent des violences sexuelles, des violences graves, et qui elles ne peuvent pas parler parce que elles se prennent des représailles quand elles parlent. Elles sont discriminées. Elles, tu sais que sur une femme sur 3 qui fait des démarches dans son boulot pour contre du harcèlement sexuel doit quitter son travail. C'est-à-dire c'est ça en fait le corps des problèmes, c'est ça le réel danger. Le réel danger, c'est pas ce
qui est
exprimé là. Non, mais je l'entends. Je dis juste qu'il faut lui donner proportion gardée à cette expression par rapport à ce dont on parle. S'il te plaît, on est en train de fêter l'anniversaire. On parle de ça.
La question, c'est les comportements des hommes ont-ils changé? Lui te dit oui, mon comportement a changé.
Je vous donne un autre exemple.
Juste dernière chose, pendant le confinement, donc après MeToo, et c'est là que ça a été ma thèse sur les violences masculines ont explosé.
Fatima, c'est un autre débat. Thomas, il te dit juste le comportement des hommes a-t-il changé? Thomas, il te dit mon comportement a changé, en bien ou en mal. Mais en tout cas, lui, il te dit, voilà, aujourd'hui, effectivement, je ne laisse plus la porte de mon bureau ouverte et je ne prends plus l'ascenseur avec une femme.
C'est l'histoire des femmes manipulatrices, faiseuses de chantage.
Il peut avoir peur de ça. Je veux dire, et ça n'exclut pas. Et ce que tu disais très bien, qu'il y a énormément de femmes aujourd'hui qui n'obtiennent pas réparation, elles sont violées, etc., que les plaintes ne sont pas prises, qu'il y a énormément d'efforts à faire. Mais on peut écouter aussi un homme qui a changé de comportement.
Je vais vous donner un exemple rapidement. Un ami entraîneur de football. Il y a dans son staff technique une jeune femme qui s'occupe d'un. Voilà. Il m'expliquait l'autre jour qu'il ne fait, alors qu'ils doivent travailler tous les deux, sur les joueurs, etc., qu'il ne fait jamais de réunion dans son bureau seul avec cette femme. Il y a toujours au moins une troisième personne et la porte est toujours ouverte, justement pour éviter qu'il puisse y avoir. Voilà. Donc le comportement des hommes a changé.
Fausse accusation.
Oui. Non, pas forcément. Mais comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Il y a rien de truc. Une petite blague ne peut pas être mal comprise. Donc oui, le comportement des hommes a changé.
Les blagues sont mal comprises. Non mais attends.
Tu trouves ça mal que ce monsieur ne veuille pas être avec une femme de 25 ans? Il en a près de 60. Il travaille avec elle. Et on va éviter tout.
C'est triste.
Bah, c'est triste, tout malentendu. Il y a toujours une troisième personne et la porte est ouverte. Voilà une mais des
c'est
conséquences.
Triste, mais si ça peut empêcher non, des blagues, peut-être que c'est pas possible.
Enfin, c'était de bonne intention. Enfin,
oui, mais j'ai pas compris. Mais tout malentendu.
Mais j'entends, mais moi je sais que j'aurais pas peur de m'enfermer dans un bureau avec une jeune femme de 25 ans.
Il n'y a aucune place au malentendu. Et d'ailleurs, moi j'ai tellement vécu dans un moment où il n'y avait pas de malentendu que, d'ailleurs, à l'époque, j'étais même pas au courant de mes droits. J'ai eu un échange mail, je pourrais te le montrer, où le mec, mon supérieur, me dit, j'aimerais, qui avait plus de 60 ans, oui. À l'époque, j'en avais 20 et quelques, je fantasme sur une relation dominante avec toi, nanana. Et c'était avec le mail de sa boîte. Pour ouais, se dire que, en général, les horreurs qu'on entend, il n'y a aucune place à l'ambiguïté. Tu vois?
On est d'accord avec ça. Alors, en tout cas, on vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Le comportement des hommes a-t-il vraiment changé depuis le début de MeToo?
Eh bien, c'est le nom qui l'emporte, un nom qui l'emporte à 59% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
On va quand même dire qu'il y a 41% des hommes qui ont changé leur comportement. Dans un instant, on parlera d'une révolution. Ça arrive dans un an. On devrait avoir un chargeur universel pour tous les téléphones portables. Vous savez, fini les 25 chargeurs dans le tiroir. C'est Anthony Morel qui va nous en parler. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
1051, vous êtes sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi et c'est le moment d'accueillir Anthony Morel.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
J'ai envie de pleurer de joie, Anthony. Parce que grâce à vous, je vais pouvoir libérer mes tiroirs de tous mes chargeurs de téléphone. Quel bonheur.
On n'en peut plus, on n'en peut plus. Et là, à partir de 2024, on a la date, eh bien, tous les appareils électroniques devront avoir la même connectique. Les smartphones, les liseuses, les tablettes, les consoles de jeux portables. Alors, les ordinateurs portables, ils ont jusqu'à 2026. Mais sinon, 2024, c'est le Parlement européen qui a validé cette décision. Donc voilà, qui va obliger tous les fabricants d'électronique à s'y conformer. Et donc, en gros, à partir de 2024, eh bien, tous devront avoir une connectique qu'on appelle USB-C. USB-C, c'est en gros, c'est ce que vous avez sur beaucoup d'appareils déjà à la maison.
Mon ordi.
Ben, bien sûr, les deux bouts petits arrondis, et puis on peut la brancher dans les deux sens. Hein. Alors, vous allez me dire, la plupart des appareils sont déjà en USB-C. Mmh. Sauf que la législation, elle a été pensée à une époque. Oui, alors exactement. Elle a été pensée d'abord à une époque où il y avait tous les fabricants de téléphones avaient leur propre chargeur, donc c'était pas très pratique. Et puis, effectivement, il y a une exception notable aujourd'hui, c'est Apple. Vous, je crois que vous avez un iPhone.
Oui.
Aujourd'hui, vous pouvez pas vous charger avec le câble que j'ai apporté là, qui est USB-C. Voilà. Bah, demain,
mais
ce sera possible.
Mon ordi, oui, je crois.
Exactement. En fait, là, Apple va devoir s'y conformer. C'est quand même un tour de force, c'est-à-dire que l'Union européenne a fait plier Apple, puisque concrètement, à partir des iPhone 15, de l'an prochain probablement, ou l'année d'après, eh bien Apple, sur ses iPhones, devra intégrer cette connectique USB-C, ce qui est quand même pas rien. Et puis, un deuxième point intéressant dans cette réglementation, c'est qu'il va y avoir une harmonisation des vitesses de charge. Aujourd'hui, quand vous avez un téléphone d'une marque avec un chargeur d'une marque qui va avec, si vous le prêtez à un ami qui a un téléphone d'une autre marque, eh ben son téléphone, il y a des fortes chances qu'il se charge moins vite. En fait, il est bridé. Bah oui, il y a un système de bridage. Et bah oui, pour favoriser évidemment la marque en question au détriment de l'autre, eh bien ça, ce sera terminé, ce sera même vitesse pour tout le monde, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle également.
Ça change quoi concrètement pour le consommateur ?
Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, en termes de simplicité évidemment, vous disiez, les 12 chargeurs dans les tiroirs, quand on part en vacances, il faut prendre le chargeur Android, le chargeur iPhone, c'est jamais très très pratique, donc on va y gagner un petit peu de temps et d'espace. Faire des économies également, comme on aura tous le même chargeur, il y a de fortes chances que la plupart des fabricants maintenant ne mettent plus de chargeur avec l'appareil électronique, parce qu'on partant du principe qu'on en a tous à la maison, puisque c'est toujours le même de toute façon. Écologie aussi, hein, parce que évidemment on va éviter des déchets, de la pollution numérique, tout simplement le fait de jeter des chargeurs, ça représente 11 000 tonnes de déchets par an, c'est quand même pas rien. Ben oui, c'est pas rien. Alors il y a quand même un petit inconvénient qu'il faut noter, c'est le fait que ça risque quand même de freiner l'innovation. C'est-à-dire que maintenant qu'il y a cette harmonisation, il n'y a plus aucun intérêt pour les fabricants à se dire maintenant on va bosser sur un nouveau type de connectique qui va être peut-être plus rapide, qui va être consommer moins d'électricité, enfin on peut imaginer plein de trucs. Non, puisque tout le monde a le même, finalement il n'y a plus tellement d'intérêt à innover. C'était l'argument que mettait en avant Apple, d'ailleurs, pour défendre bec et ongle ses ports Lightning, sa connectique propre. Et c'est un argument qui, mine de rien, s'entend. Donc, on verra dans les années qui viennent si on a des nouveaux types de
connectiques. Ils peuvent quand même faire des recherches pour améliorer le chargeur unique, d'autant qu'en plus, ils vont beaucoup le rentabiliser puisqu'il remplacera le précédent.
C'est vrai, mais on aurait pu faire probablement encore mieux.
L'idéal serait quand même de se débarrasser des chargeurs.
Alors voilà, notamment, et j'en venais à ça parce que là aussi, il y a beaucoup d'innovations et beaucoup de recherches sur le fait de supprimer complètement le chargeur. Alors, ça va des smartphones smartphone qui se recharge à l'énergie solaire. Ça, c'est des expérimentations avec des panneaux photovoltaïques transparents à l'intérieur de l'écran et jusqu'à des systèmes de recharge à distance. Alors ça, il y a plusieurs fabricants qui travaillent là-dessus. C'est assez dingue. C'est une box un peu comme la box Wi-Fi que vous avez à la maison qui va être capable de viser individuellement chaque appareil électronique qui se trouve dans la maison n'importe où. Ah, je sais, ça vous fait peur, ça.
Ouais, des ondes en plus, quoi.
Alors, c'est des ondes en plus. Mmh. Oui, alors, tout ça est testé, validé. Ouais. Ça a été validé, par exemple, par la FCC aux États-Unis, qui est un organisme qui est assez tatillon sur ces sujets-là. Mais je sais que ça va faire probablement un débat de société quand ça va arriver. Parce que, alors là, les anti-5G, je pense qu'ils vont faire une syncope. Parce que là,
on sera déjà à la 6G.
Voilà. Bon, on sera sûrement là. Je vous en reparlerai de la 6G parce que ça va arriver aussi. Absolument. C'est une technologie qui est en cours de développement. Mais en tout cas, vous imaginez le truc. C'est que vous pouvez poser votre téléphone absolument n'importe où et il se recharge automatiquement. Pas mal.
Merci beaucoup, Anthony Morel, pour toutes ces bonnes nouvelles. Tous les jours, midi 50 dans Estelle Midi. Dans un instant, on se posera cette question. Faut-il rendre le port de l'uniforme obligatoire à l'école? On attend vos réactions au 32-16. À tout de suite sur RMC.